Vous écoutez
RMC. RMC.
À votre avis, c'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant?
Le bras de fer GG.
Vraiment, t'es sûr que l'éléphant il est plus fort que l'hippopotame?
Alors, en marge du tournoi du Masters 1000 d'Indian Wells, une révolution dans le monde du tennis se prépare. L'avenir du circuit mondial se dessine avec deux projets puissants qui s'opposent. Le premier, autour des grands chelems qui veulent créer un circuit premium. Le second, autour des pétrodollars de l'Arabie Saoudite. Concentrons-nous sur le premier, impulsé par le patron de l'Open d'Australie, Craig Tiley. Un circuit fermé, très élitiste, avec donc, je le disais, les quatre grands chelems et 10 autres tournois. Êtes-vous emballé ou consterné par le projet? Dans le coin droit, la team emballée, Fred Weiss et Sarah Pitkowski. Dans le coin gauche, la team plutôt consternée, Simon Dutin, Julien Beneteau. Julien me fait des grands signes avec des nuances, j'ai bien compris mon cher Julien. Avant de débattre, on va retrouver notre spécialiste tennis sur RMC, Eric Salio. Salut Eric.
Salut les grandes gueules.
Salut Eric. Salut.
Alors Eric, détaille-nous ce projet assez révolutionnaire, il faut bien le dire.
Ouais, ça fait quelques mois que ce projet d'un circuit fermé porté par les quatre grands chelems bruisse. L'impulsion est donnée par Greg Tallet, le patron de l'Open Australie. Il s'appuie habilement sur la puissance des majeurs. Son plan est simpliste, ou simple, à l'image du circuit Live de golf ou de la Formule 1. Les 100 meilleurs se retrouveraient entre eux dans des Masters 1000 exclusivement en outdoor, donc en extérieur, précision importante, dont le nombre serait porté à 10. On devine l'idée, gagner plus en jouant moins. Pour ne pas paraître trop élitiste, il promet la naissance d'un circuit de deuxième division avec un système de montée et descente en fin d'année. Avec quel promoteur? C'est peut-être le point faible du dossier. Autre interrogation, le rôle joué par la Fédération française lié à ses trois partenaires de Grand Chelem, Gilles Moreton semble jouer les suiveurs, quitte à abandonner l'organisation de Bercy alors même qu'il vient d'officialiser son déménagement à la Défense Arena. Avouez que la stratégie est dure à suivre.
La stratégie est dure à suivre et on va essayer de décortiquer tout ça. Merci beaucoup Eric Salio pour ces précisions. Êtes-vous emballé ou consterné par ce projet? Nous vous avons posé cette question sur le compte Twitter des Grandes Gueules du Sport et pour l'instant, franchement, il n'y a pas de débat. 22% seulement emballés, 78% consternés. Alors les emballés, les ravis de la crèche, Fred Weiss, Sarah Pitkowski, on va commencer avec vous. Sarah, spécialiste tennis, pourquoi emballé?
Alors emballé, je...
Oh non, tu ne vas pas te défausser maintenant.
Non, mais quand je dis emballé, en fait emballé parce que il y a une évolution qui est absolument nécessaire du circuit du tennis. Donc emballé parce que effectivement des projets sont naissants. Alors tu parles de celui de Greg Tiley, mais il y a aussi le projet de l'Arabie Saoudite. Donc emballé sur le fait qu'il y a une évolution nécessaire. Pourquoi une évolution nécessaire? Parce qu'il faut une sécurité, une plus grande sécurité financière pour la plupart des joueurs. Et ce, derrière la 200e place mondiale. Il y a une sécurité physique et morale qu'il faut assurer aux joueurs parce qu'il y a de plus en plus de tournois et qu'on traverse le monde à droite et à gauche. Et on le voit, c'est comme dans plein de sports et chez plein de sportifs, il y a une fragilité qui s'est installée. Et donc aujourd'hui, il faut le réfléchir différemment. Donc est-ce que c'est celui de Greg Tiley ou est-ce que c'est celui de l'Arabie Saoudite?
Mais il faut quelque
Moi,
chose.
Je pense qu'il y a une évolution qui est nécessaire, okay. Sauf que pour l'instant, on parle d'entité, mais on ne parle pas du tout des représentants des joueurs. Et ceux qui sont sur les cours, c'est les joueurs. Donc pour l'instant,
pardon, mais ça ne marche pas, ça, dans le tennis.
Si, ça marche. Ah bon? Si, ça marche, si les joueurs n'ont pas envie.
Les joueurs, on voit au chapitre dans le tennis?
Il faudrait.
Oui, c'est là qu'il faudrait.
Mais il faut les mettre autour de la table. Il faut les mettre autour de la table, parce que s'il y a un moment, on peut... Enfin, les joueurs et les joueuses ont aussi le pouvoir de ne pas rentrer sur le court.
Ok, plutôt consterné, même si évidemment il y a de la nuance.
Je suis dubitatif pour l'instant. Pour revenir sur ce qu'a dit Sarah, premier argument sur l'aspect financier est totalement recevable. Au-delà de la 200e place, il faut sécuriser les joueurs, etc. Sur un sport majeur, comme le tennis global, il y a pas assez. Les très grands gagnent beaucoup, mais derrière.
Mais pas assez. Mais Julien, la répartition, tu sais combien?
Oui,
la répartition d'un grand chelem, la répartition du prize money entre le chiffre d'affaires que représente un tournoi du grand chelem et ce qui est reversé aux joueurs, c'est 12%.
Oui, on n'est pas sur un modèle économique comme la NBA où il y a...
Donc il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre.
En revanche, sur la santé des joueurs, etc., jouer moins et tout, là, les joueurs ne peuvent plus être audibles. Parce que les joueurs, ce qu'ils veulent, c'est de l'argent. Ils vont jouer la Lever Cup.
Exactement.
Ils vont jouer l'UTS. Voilà. Dès qu'il y a une exhibition en Arabie Saoudite, ils y vont.
Regarde Netflix récemment.
Ils ont fait Netflix. Soi-disant, la Coupe Davis, l'ancien format, c'était trop dur, c'était trop long, on peut pas jouer le calendrier ou la Fed Cup, etc. Dès qu'il y a une exhibition à droite, à gauche, avec beaucoup plus d'argent, ils y vont.
Donc il y a une répartition financière différente.
Différente, mais pour les joueurs, le calendrier pour les joueurs, c'est inaudible. Parce que les joueurs, dès qu'il y a de l'argent, ils vont jouer.
Donc, au détriment, si vous voulez plus d'argent,
c'est toujours les mêmes qui vont jouer.
Non, bah, si, les matchs par équipe, les matchs par équipe à droite, à gauche, les trucs, à tous les niveaux pour gagner de l'argent.
Si...
au détriment d'un calendrier sportif qui...
cohérent.
Oui, qui est incohérent du coup.
Oui.
Et donc du coup, même les plus grands joueurs, même ils sont venus à, comment dire, à tuer certaines épreuves emblématiques comme la Coupe Davis et la Fed Cup parce que il y a plus d'argent ailleurs, etc.
Donc on a une sécurité financière au-delà pour ceux qui sont derrière.
Mais finalement,
tout le monde.
Après, dubitatif parce que. Par rapport au
si
golf,
tu gagnes plus
alors Eric a fait une erreur parce qu'il a cité le Live Golf, mais en fait c'est tout sauf le modèle du Live Golf. Ce serait plutôt le modèle du PGA Tour sur le golf, avec un vrai circuit, avec une vraie descente, une vraie promotion, un vrai enjeu sportif, etc.
Oui, non, mais c'est l'Arabie Saoudite qui pourrait se rapprocher de la création d'un circuit
Parallèle
comme le Live Golf.
Par rapport au golf et au circuit premier avec des systèmes de montée et descente, là ce serait fermé. Donc nous on a déjà des tournois qui existent. Les 500, les 250. Craig Taylor, dans son projet, il voudrait que derrière, il y a une sorte de tour, contender tour, il appelle ça, pour les, du centième au troisième, qui est une montée.
Du centième au 300e joueur mondial.
Mais le problème, c'est que qui va organiser aujourd'hui des tournois comme ça?
Et qui va
les financer?
Qui va payer pour
les
financer?
Alors,
ça va intéresser qui?
Exactement.
Alors, comment ils vont être financés, normalement?
Normalement.
Là, l'argent va émaner des droits télé. Puisque ce qu'ils veulent, c'est que sur circuit premium, soit vendu avec des droits télé vraiment énormes.
Mais donc ça, c'est unifié. Une supputation.
Non, mais voilà.
Complète.
Unifié. Et du coup, après, ils vont redistribuer l'argent. Mais qui va, aujourd'hui, les tournois qui ont des licences 500, 250, et qui ont des très bons joueurs dans leur tableau, un membre du top 10, plusieurs membres du top 20,
là,
du
c'est
top 30,
terminé.
C'est terminé. Donc, les tournois historiques ou les tournois qui sont déjà au calendrier de l'ATP vont pas avoir envie d'organiser des tournois.
Ils n'auront plus de garantie de leurs partenaires pour pouvoir continuer à organiser.
Et ils n'auront plus de joueurs dans les 100 premiers mondiaux. Donc c'est là où, pour moi, je suis dubitatif de voir comment ça peut se mettre en place, tout ça.
Je suis emballé parce que je me dis, tu risques d'avoir les 100 meilleurs joueurs. Alors oui, effectivement, il y a le 201 à 300 après. En plus, pour une possibilité de monter, d'aller dans ces 100 meilleurs joueurs. En théorie, on ne sait pas exactement comment ça fonctionne, mais c'est pas une ligue complètement fermée entre guillemets. Mais me dire que les meilleurs joueurs du monde vont s'affronter dans des tournois où ils pourront choisir une douzaine de tournois. Ils auront 32 semaines de travail et donc le reste, ils vont être reposés. C'est-à-dire que quand je verrai ces tenniswoman, parce que ça c'est quand même une grosse avancée, parce que les deux veulent se rapprocher, garçon-fille, je vais voir les meilleurs en forme. Donc je vois pas en quoi ça me pourrait me gêner pour moi qui suis pas dans ce milieu.
C'est
génial pour moi. Je vais voir les meilleurs joueurs dans leur meilleur état de forme.
Fred, Simon. À part lorsqu'ils reviennent de blessure, il y a aucun des joueurs du top 100 mondial qui font un pied dans un ATP 250.
C'est encore du 100 mondial, oui.
Oui, ou alors pour faire plaisir à un copain qui organise.
Non, top 100, si.
Ouais, franchement. Je caricature, mais ils choisissent déjà où ils jouent tous. Ils veulent.
Les choisissent
où ils cochent les Masters 1000. Les grands chelems. Le problème, c'est que il y a une gouvernance multicéphale du tennis. Les grands chelems font chacun ce qu'ils veulent, c'est-à-dire t'as quatre tournois qui décident de ce qu'ils veulent. T'as l'ITF qui est inaudible. On sait même pas, qui est la gouvernance du tennis mondial. Il y a l'ATP, il y a la WTA. Bon, il faut que il y a un peu de rationalisation dans la gouvernance du tennis mondial. Il y a un besoin de moins jouer, je pense. C'est effectivement le calendrier un peu trop lourd pour les joueurs, mais moi, ça me fait penser, je sais pas, basiquement au projet de Super League dans le football. Ça va contre l'universalité du tennis. On fait quoi des grands totems de l'histoire du tennis, les tournois de Rome, de Monte Carlo, qui risquent de passer à la trappe.
C'est hyper sécurisant pour un promoteur. C'est hyper sécurisant pour des droits télé de se dire, je vais avoir les meilleurs joueurs dans leur meilleur état de forme.
Mais Fred,
j'ai envie de regarder.
Je suis d'accord avec toi. Mais en fait, aujourd'hui, pour les meilleurs joueurs, tu l'as déjà ça, parce que pour les meilleurs, le top 10, le top 15, ils choisissent leur calendrier. Ils font pas beaucoup de 250-500, ils font les Master Smith, les Grands Chelem, et quand ils se rencontrent, ils sont en forme, à part retour de blessure ou quoi que ce soit. Donc ça, pour moi, tu l'as déjà. Après, il y a Jean-François Cojol.
Ça crée un événement n'ayant que 12 tournois.
Il y a Jean-François Cojol qui a réagi. Et il y a un argument où je suis assez d'accord avec
lui.
Alors,
je vais juste citer sa phrase et tu vas pouvoir compléter.
Je sais pas si c'est
j'espère en tout cas. Ça veut dire qu'on est
mon petit Jean-Christophe,
très connecté. Ouais. et tu m'en verras ravi. Directeur de l'Open 13 de Marseille, c'est un tournoi évidemment historique chez nous, mais pour les grands joueurs un petit peu moins, c'est un 250. Du premier au centième, c'est ce qu'il dit, ils vont jouer 14 tournois dans l'année. Ouais. Et le résultat, ils vont faire quoi? Un mec qui est 60e, il va perdre à chaque fois au premier tour ou au deuxième tour. Comment un jeune va-t-il pouvoir entrer dans ces tableaux? Et il dit aussi, sportivement, c'est aberrant. Les joueurs, ce n'est pas comme la Formule 1. Ils ont besoin de jouer régulièrement.
Alors voilà, c'est là-dessus où je suis assez d'accord avec lui. C'est pour la catégorie de joueurs qui seront dans ce circuit premium, mais aux alentours de la 60e ou la 70e place, sur ces tournois qui vont durer 15 jours, qui sont longs. Donc il y a une journée de repos à chaque fois. C'est pas mal pour la santé des joueurs, etc. Mais
eux, à la trappe.
Et oui, au deuxième tour, en général, ils vont être à la trappe. Et effectivement.
Sauf que c'est pas la proposition, hein. La proposition initiale, c'est pas exactement ça. Je pense qu'il a, il a pas exactement lu ce qu'il en est. La proposition initiale, c'est qu'ils auront le droit de faire des tournois moins importants, hein.
Alors, moi.
En tous les cas, c'est ce que j'ai lu partout.
Alors, moi, pour moi, le circuit premium, c'est les joueurs qui sont dans le circuit premium, ils ont pas le droit de jouer dans les.
Apparemment, c'est pas ce qu'ils ont proposé. Ils auraient le droit de choisir des tournois moins importants dans lesquels ils pourraient participer. Et dans ce cas-là, je vois pas quel est le problème. Au contraire, ils sont dans un circuit premium, ils sont vus, ils ont une vraie visibilité par rapport à ça.
Si c'est ça, je suis d'accord avec toi, Fred.
Et effectivement, quand ils sont éliminés rapidement, ils peuvent bifurquer sur d'autres tournois.
C'est ce qui explique, c'est ce qui existe aujourd'hui, en fait. Aujourd'hui, les Masters 1000, et beaucoup de Masters 1000 sont sur 15 jours. Celui d'Indian Wells, celui de Miami, celui de Rome, celui de Madrid, ceux de l'été aux États-Unis vont y arriver. Qu'est-ce qui se passe? C'est que la deuxième semaine de ces tournois-là, il y a des, ce qu'on appelle des gros challengers. Mais c'est pas des 250, mais c'est soit des 125, voire même des 175. Qui ont des tableaux pour des challengers exceptionnels. L'année dernière, au tournoi, au challenger de Primrose à Bordeaux, il y avait Wawrinka, il y avait Andy Murray, il y avait Richard Gasquet, il y avait plein de Français. Pour un challenger, c'est incroyable. Donc, ces deuxièmes semaines de Masters 1000, pour ceux qui sont éliminés, ils ont la possibilité de jouer dans des gros challengers. Ou donc, c'est déjà le cas. Donc, je sais.
Mais est-ce que c'est aux joueurs de tennis de faire la promotion de tous les petits tournois pour qu'ils arrivent à survivre?
Mais c'est pas une question de faire de promotion, c'est-à-dire de pouvoir faire un calendrier cohérent.
Sportivement et économiquement.
Encore une fois, au tennis, c'est un tableau. C'est-à-dire que tu peux perdre, et d'ailleurs, tu perds une fois par semaine.
Ouais.
C'est toujours le même principe. Donc si tu fais que des premiers tours, tu joues un match tous les 7 jours. Et effectivement, ça, c'est très handicapant. On n'arrête pas de pleurer parce que Kylian Mbappé, il fait que des entrées sur le banc. Ben, un joueur de tennis, c'est la même chose. Il est là pour jouer des matchs. Je sais pas, des entraînements.
Bon, mais là, t'as 12 ou apparemment entre 12 et 14 tournois qui seraient quasiment obligatoires.
Mais t'as toujours un mec qui perd au premier tour.
Mais évidemment, sauf que s'ils peuvent être versés sur des tournois plus petits,
je vois pas encore.
Et au contraire, ça leur laisse peut-être des opportunités.
Alors, je vais juste apporter un point. C'est-à-dire que le projet de Greg Taillet, il n'est basé que sur une certitude que. Il va y avoir des droits télé et qui va pouvoir coupler les droits télé. C'est comme la Ligue 1 qui dit j'ai Messi, j'ai Neymar, j'ai Mbappé, je vaux un milliard. Mais ça, non,
c'est
toi.
D'accord, c'est bankable sur le papier, c'est bankable. Après, encore une fois, c'est la loi qui fait la demande. Mais sur le papier, c'est bankable quand même.
Aujourd'hui, il ne se base que sur une garantie qu'il va y avoir une agrégation des droits. Et s'il y a un moment, il y a une chaîne ou un groupe qui fait faillite, et ben c'est la même chose. Tu déséquilibres tout ton circuit et tout ton modèle économique.
Est-ce que c'est pas valable dans tous les sports?
Je sais pas, mais nous on a un ATP on a l'ATP, la WTA qui représentent toute une catégorie de circuits qui aujourd'hui ont une autre offre, c'est-à-dire que lui, à l'ATP, à WTA, il y a 2 milliards. C'est pas un projet, on dit c'est 2 milliards.
Oui, mais est-ce que lui, tu sais comment ça va évoluer l'ATP et WTA?
Après, c'est de la négo.
Dans le doute, on sait pas en fait.
Si c'est utilisé correctement, tu vas pouvoir augmenter les prize money, sécuriser financièrement les joueurs et donc peut-être créer une coordination d'un circuit qui est cohérent. Le problème, c'est que les grands chelems ne donnent jamais leur chiffre d'affaires. Ils ne veulent jamais donner leur compte, pour terminer ce débat. Au-dessus de la mêlée.
En préparant évidemment ce débat, on s'occupe un peu du tennis, on voit l'organisation, on essaie de comprendre. Comme disait Simon, il y a tellement d'entités que parfois on s'y perd un peu. Et on en revient toujours au même constat, on a la sensation, et pourtant c'est quand même là où il y a l'argent, il y a un problème avec les quatre grands chelems. Vous qui connaissez le tennis, c'est quoi le problème avec les quatre grands chelems? Alors qu'ils font vivre quand même le tennis toute l'année.
C'est paradoxal, surtout pour, par exemple.
Pour que les auditeurs comprennent bien, pourquoi les grands chelems, ça devient un problème?
Moi, je ne le vois pas comme un problème. Parce qu'aujourd'hui, les prize money, alors, ça, en termes de pourcentage sur le revenu, ça reste infime. Sauf qu'ils ont quand même énormément augmenté les prize money ces derniers temps, surtout sur les premiers tours. Donc, ou en qualification, donc pour une catégorie de joueurs qui en ont vraiment besoin. Et par exemple, si on compare l'ATP, ils ont des prize money conséquents pour certains joueurs, mais par exemple pour les joueuses du circuit WTA, celles qui sont 60e, 70e, qui sont dans le tableau final de chaque grand chelem, c'est les grands chelems qui font 60, 70% de leur prize money annuel.
Julien, qu'est-ce qu'ils font des 78 autres pourcents?
J'ai bien une idée.
Non, mais qu'il génère, c'est-à-dire qu'en fait, je le parle et a priori, ça, on devrait être très content parce que nous, l'argent est reversé au tennis français. Donc, j'ai envie de dire, mais si
c'est
on
ça,
voit
ça. USTA, c'est pareil.
Et c'est pas, donc, en fait, ça fait vivre,
ça fait vivre quatre fédérations. Donc, ok, très bien. Mais donc, ça déséquilibre forcément un tennis mondial ou quand tu viens d'un pays qui, lui, n'a pas un grand chelem et donc n'a pas de financement. C'est là où il y a un déséquilibre.
Donc le problème est financier avec les quatre grands chelems.
Bah, il est financier, il y a un manque de transparence.
Okay. Si, non, l'argent, on le sait où il va. Il est redistribué dans la fédération qui organise les grands chelems. Okay. Ça, donc, c'est sûr.
On est vachement pour nous, alors. Hein.
Bah oui. Bravo, allez Roland Garros évidemment. Ce sera grand mai et on sera là sur RMC. Sachez que les copains ont emballé. Vous avez gagné un petit pourcent.
C'est un métier.
Fred Veil, Sarah Pitkowski, on termine à 23%. Bravo, emballé, 77%. Consterné.